Donc, bonjour à chacun. Aujourd'hui, on va essayer de rester dans le thème. Et donc, le thème du message aujourd'hui, c'est des embrouilles, des forts caractères, à quoi bon faire partie d'une église locale? Donc, on a tous pu le constater, cohabiter, vivre ensemble, ça peut être compliqué. En effet, il est difficile pour nous, les êtres humains, de vivre paisiblement les uns avec les autres sans problème. On connaît bien cette expression, chacun chez soi, les boutons seront bien gardés. Effectivement, vivre tranquillement dans son coin, sans se soucier des autres, est si agréable. Mais pourquoi alors avons-nous besoin d'une communauté? Pourquoi pareille folie? Pourquoi sortir de sa tranquillité, sortir peut-être de son lit douillet du dimanche matin ou du canapé du samedi soir, on est tranquille, pour regarder un truc à la télé ou je ne sais pas où. Pourquoi le faire? Et on va tout cela pour tout cela pour se retrouver avec plein de personnes qui peuvent paraître étranges, avec qui peut-être on a de la peine. Il y a d'autres qu'on apprécie aussi, c'est vrai. Puis on va devoir faire des efforts sociaux. C'est fou, non? Mais bon, on va essayer de répondre à cette question. Donc, il est vrai que les communautés sont un terrain propice aux disputes, aux jalousies, aux querelles. On voit des clans se former des fois. L'autorité est remise en cause, des divisions éclatent. Certains soutiennent les pasteurs, d'autres pas. Il y a des personnes qu'on peut trouver étranges, qu'on n'aime pas, ou qui nous dérangent. On entend parler des fois de scandales. On peut les énumérer, il y a beaucoup. Combien de fois on entend des églises éclater parce qu'il y a eu des problèmes, enfin voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on peut se rappeler que ce n'est pas nouveau. Et j'aimerais prendre l'exemple dans la parole, dans la Bible. Par exemple, quand il y a l'épisode où Paul il reprend Pierre, parce que Pierre il se mettait avec les non-juifs, il allait manger avec les non-juifs. Et puis, Paul était là et tout. Puis, à un coup, il y a des juifs qui arrivent et Paul, il se met discrètement, il part et puis il va manger avec les juifs. Et puis, Paul, il voit ça et puis il se dit, mais c'est hypocrite ce que tu fais. Dès que tu vois les juifs arriver, tu pars et tout ça. Puis, Paul, il le reprend devant tous. Et déjà là, on voit un peu des querelles. Ou aussi, quand Paul et Barnabas, il y a l'épisode où Paul et Barnabas se disputent parce que Barnabas, il veut que Marc vienne avec eux dans leur voyage. Et puis, du coup, Paul n'est pas d'accord. Et puis, il y a des disputes qui éclatent. Et puis, pour finir, une telle dispute qu'ils se séparent. Ils avaient une belle mission, ils se séparent, ils se scindent en deux. Donc, ce n'est pas nouveau. Et Paul aussi reprend en ces termes aussi l'église de Corinthe qui vient à peine de voir le jour. J'ai peur, en effet, je vais peut-être mettre les versets parce que. J'ai peur, en effet, qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais que vous me trouviez, pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver des querelles, des jalousies, des colères, des rivalités. Des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Avec tout ça, on peut se poser la question de savoir comment Jésus bâtira sa communauté. Mais on peut avoir confiance en Dieu. Comme nous venons de le voir, cela n'est pas nouveau. La Bible nous appelle à vivre en communauté. Déjà dans l'Ancien Testament, les choses sont assez claires. C'est dans les Proverbes, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Jésus aussi, par le verset que je vais vous montrer, nous parle d'une dimension communautaire. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pour que les autres voient l'amour qu'il y a entre nous, il faut bien que nous soyons ensemble en communauté. Si nous sommes chacun dans notre coin, comment les autres sauront-ils que nous nous aimons? Mais il faut aussi être prudent. Ces deux versets, ces deux passages ont une signification aussi profonde. Ils nous disent également de ne pas tomber dans l'excès inverse. Nous ne sommes pas censés devenir des sortes de communautés amish, isolées et reclus dans notre coin. Et encore une chose, on peut voir en lisant le Nouveau Testament que les communautés sont apparues dans les villes après que des évangélistes y soient passés, comme Paul par exemple. Il a été à l'origine de nombreuses communautés. Dans ses lettres, il ne cessait d'exhorter chacune des églises qu'il avait créées à persévérer dans l'amour, dans l'unité d'esprit et la foi. Paul désignait même des personnes pour gérer ces communautés. Cela montre l'importance de celles-ci. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc ok, une église locale, mais dans quel but? Il y a ce verset qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Oui, à chacun sa place. C'est important. Nous, les croyants, nous formons un édifice dont Jésus constitue le fondement. Chacun de nous est unique, comme une pierre taillée selon une forme spécifique. Ces pierres considérées séparément ne présentent aucun intérêt particulier. Cependant, lorsqu'elles sont assemblées, elles forment un bâtiment harmonieux. Une petite pierre peut même contribuer à supporter une pierre plus imposante dans un mur. L'église locale est précisément cet endroit où les pierres s'assemblent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un escape game. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais l'escape game, c'est un peu un endroit où on est dans une pièce, puis on doit sortir d'une pièce avec une équipe, trouver des indices et tout ça. Et moi, la première fois que j'ai fait un escape game, c'était à Berlin, en Allemagne. Et donc l'escape game était en anglais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'étais à Berlin, mais bon, c'était en anglais. Et je ne parle pas du tout l'anglais, ou très peu. Et ce qui m'a frappé, c'est que malgré que je ne parlais pas du tout l'anglais, j'ai pu, avec, entre guillemets, mes talents, il y avait des trucs de dextérité, on devait trouver des clés, on devait pousser des meubles, trouver des choses cachées. Et puis j'ai pu trouver pas mal de choses, en fait. Et puis... mes amis qui parlaient bien anglais, ils ont pu résoudre tous les trucs où il fallait lire, il fallait se poser des questions et tout ça. Et ce que j'ai trouvé beau, c'est que même si je parlais pas l'anglais, on a réussi à sortir de la pièce et que chacun avec ses dons, on a pu arriver au bout de cet escape game. Chacun avec ses dons. Si j'avais pas mes amis, j'aurais pas pu sortir. Et si mes amis avaient pas, si j'étais pas là pour mes amis, certainement qu'ils n'auraient pas eu le temps de sortir de la pièce, parce qu'il y a une heure pour sortir de la pièce. Donc à chacun ses dons. De même, nous avons aussi l'occasion de mettre nos dons et nos talents au service de la communauté, au service de Dieu pour l'avancée de son royaume. Il y a diversité de dons et ils se complètent. Certains d'entre eux ne peuvent être exploités que s'il bénéficie du soutien d'autres dons. On peut lire ce verset dans Corinthiens. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. J'aimerais aussi vous parler d'un certain Albert McMakin. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Albert McMakin. Je pense que pas grand monde le connaît. Mais je vais raconter son histoire. Donc Albert McMakin, c'était un gars qui aimait bien le Seigneur et puis il allait souvent à l'église. C'était un camionneur. Et puis Albert, il avait un ami qui s'appelait Billy. Et puis il l'avait souvent invité à venir à l'église. Mais Billy, il voulait jamais. Billy, il préférait aller faire la fête, faire d'autres trucs plus cool. Et du coup, un jour, Albert, il se dit, comment je pourrais l'inviter à l'église? Il se dit, ah, je sais qu'il aimerait bien conduire mon camion. Donc, il lui dit, si je te laisse conduire mon camion, eh ben, tu viens à l'église ou bien? Puis du coup, Albert, il dit, ok, non. Et Billy lui dit, ok, je veux bien, si tu me laisses conduire ton camion, je veux bien venir à l'église. Et du coup, Billy, il va à l'église. Et puis, ce jour-là, il est touché, il donne sa vie à Dieu, il est touché comme jamais. Et puis, en fait, ce Billy, c'est Billy Graham, pour ceux qui connaissent, donc le très grand évangéliste, il y a quelques années. Et ce que je trouve beau, c'est que sans Billy, il n'y a peut-être pas de Albert. Sans Albert, il n'y a peut-être pas de Billy. Donc, si Albert n'avait pas prêté son camion, s'il n'avait pas fait cette petite chose ici, s'il n'avait pas donné un peu de son don, cette générosité de se dire « Allez, je prête bien mon camion pour... » peut-être qu'on n'aurait pas eu de Billy Graham. Et je pense que c'est comme ça dans notre église. On a peut-être des dons qui peuvent être au service des autres. Donc, tous ces conflits que nous avons abordés dans l'introduction, on a abordé, il y avait des divisions, tout ça. Est-ce possible qu'ils servent un objectif? Et là, j'aimerais aussi parler d'une expérience que j'ai faite avec une amie. On s'était proposé pour aller faire à manger au week-end de Yep, il y a 3 ans de cela, ou 3-4 ans, je ne sais plus. Et du coup, on est arrivé au week-end du Yep, tout ça, et puis on a commencé à faire à manger, et puis très rapidement, ça n'a pas du tout aidé. j'avais certainement une part de responsabilité, mais c'était très difficile de travailler avec elle. Et c'est pas souvent que je m'énerve, mais là, je me suis énervé. Et du coup, j'ai dit au bout d'un moment, non, mais si c'est comme ça, moi, je me barre, je peux plus rester là à cuisiner dans ces conditions, c'est pas possible. Et puis, j'ai pris sur moi, on a passé le week-end, c'était un week-end sur le week-end du Yep, on a fait à manger, ça s'est passé comme ça s'est passé, puis on a fini un peu en froid, enfin, pour ma part, je lui en voulais un peu de sa manière d'agir. Et puis du coup, on est revenu à la normalité, on se renvoyait à l'église, mais j'avais toujours un peu cette rancœur dans mon cœur. Mais le truc, c'est qu'on avait déjà prévu de partir en vacances ensemble, et ça allait arriver dans les quelques semaines qui suivent. Et puis, il arrive le jour où on doit partir en vacances, et moi, ce que je trouvais bien, c'était qu'il y avait aussi sa fille qui venait, donc je me suis dit, ah, ça va peut-être un peu atténuer, on ne sera pas que les deux, voilà. Et puis, le jour où on s'attend à l'aéroport, je la vois, elle arrive et me dit, ah, ma fille, elle n'est pas là, parce que son passeport, il est plus valide, donc on doit partir que les deux. Ah, sauf que t'as compris. Ah bon, ok. Donc voilà, on est quand même parti. Et c'est là que j'aimerais remercier Dieu parce que, en fait, là-bas, on a pu vraiment se réconcilier, on a pu vraiment grandir notre amitié, partager ce qui n'allait pas, pourquoi, voilà. Et on est vraiment ressorti plus fort dans notre amitié. Ce que j'aimerais dire par là. Et puis d'ailleurs, oui. Plus tard, du coup, l'année suivante, on a refait le week-end hier ensemble et ça s'est très bien passé. Donc voilà, je remercie Dieu. Avec cet exemple, ce que j'aimerais dire, c'est que de prime abord, ça peut sembler judicieux d'avoir cette distance avec les autres, la communauté, des fois si on ne s'entend pas. Mais Dieu peut utiliser nos rivalités pour nous faire grandir dans nos amitiés, dans nos liens. Et puis, j'aimerais me poser une grande question par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui me pousse, moi, par exemple, à me tenir, certains en tout cas, ou moi, à me tenir de la communauté, à me tenir loin de la communauté ou de l'Église? Il y a un point important. Ce point, c'est notre orgueil. Il cherche constamment à paraître parfait. Quand je regarde à moi-même, j'aime bien me voir sans défaut. J'aime m'examiner et dire « Waouh, je suis vraiment un type bien. Je peux énumérer mes qualités, je suis calme, patient, à l'écoute des autres. » Mais voilà. Mais si, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, des fois, on peut dire, ah, telle personne me rend en colère. Ah, je ne sais pas, ma fiancée me rend nerveux. Ou, ah, mon ami me rend en colère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et bien, en fait, il y a un problème. Ce n'est pas ma fiancée ou cette personne qui me met en colère. En fait, ces personnes, ils sont simplement des gens qui révèlent le potentiel de colère et de nervosité qui est en moi. Le contact avec l'autre, avec mon prochain, révèle mes sentiments les plus profonds. Ils apparaissent au grand jour. Et paf, mon orgueil en prend un coup. Du coup, les interactions sociales de la communauté vont forcément révéler mes imperfections, et c'est là le gros du problème. Voilà ce qui me pousse à m'isoler. Et qui dit imperfection dit peut-être rejet des autres, jugement ou d'autres. Mais justement, on va regarder autrement. C'est peut-être un avantage que mes imperfections apparaissent au grand jour. Il y a un verset qui lit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » L'œuvre de Dieu dans nos vies est de nous faire croître toujours plus à l'image de Jésus. Je peux traiter mes problèmes seulement une fois que je les connais avec l'aide de Dieu. Et un autre verset dans les psaumes. « En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. » Et Dieu veut nous purifier avec ce contact. Alors ne craignons pas nos imperfections, arrêtons de vouloir être parfaits, que chacun puisse oser se montrer tel qu'il est réellement, car nous sommes tous dans le même bateau, plein de défauts, de luttes, de péchés et autres. Ainsi, on aura une église locale, une communauté saine, où personne n'aura honte et où chacun sera libre d'exprimer ses combats sans peur et sans jugement. Je voudrais vous montrer encore une citation que je trouve bien et qui résume un peu ce qu'on dit. C'est Martin Luther King qui dit cette citation. « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Donc je trouve que c'est assez vrai, voilà. Donc vivre ensemble comme des frères. Donc ça veut dire aussi qu'on a une famille. Et ça a été dit avant, on a évoqué la famille. Donc la communauté locale s'apparente effectivement à une famille. En effet, on est frères et sœurs en Christ comme dans une famille. On est appelés à vivre ensemble les uns avec les autres et non séparément. Qui ferait des enfants pour à peine on les a, on les balance, on ne vit pas ensemble? Non, on est frères et sœurs, on vit ensemble. Bien sûr, on a une famille. C'est un endroit idéal pour recevoir de l'aide, d'ailleurs, quand on a besoin et un soutien dans les moments difficiles. On peut lire dans Actes, « Tous les croyants étaient unis et partageaient entre tout ce qu'ils possédaient. » Ils partageaient du matériel, de la nourriture, mais d'autres soutiens, comme un soutien moral aussi. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Nous pouvons nous encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, afin de grandir ensemble. Confronter nos croyances s'avère aussi très important, car isolés, nous pouvons nous égarer dans de mauvaises compréhensions de la parole. Et n'oublions pas que dans les moments difficiles et les persécutions, cette famille, cette église, est un soutien pour chacun de ses membres, qu'ils s'y accrochent pour résister ensemble dans l'adversité avec l'aide de Jésus. Et là, on a un bon exemple, c'est l'exemple des Huguenots, pour ceux qui connaissent, qui étaient persécutés, une église persécutée, en l'an 1500 ou par là, je ne sais pas, peut-être certains me reprendront. 1600, voilà. Et du coup, cette église faisait tout pour quand même se réunir malgré la persécution. Ils se réunissaient dans des grottes, dans des endroits cachés. On appelait ça l'Assemblée du désert. Pour tenir bon ensemble, ils étaient obligés. Après, ils ont dû aussi fuir parce que la persécution était tellement grande qu'ils ont dû fuir. Et d'ailleurs, Orbe était. Hein, ces passages où les Huguenots, pour fuir vers l'Allemagne ou pour fuir vers les régions protestantes, ils passaient par là. Il y a une plaque, je crois, au puisoir qui parle de ça. Donc, voilà. Mais il faut aussi dire que la communauté est un endroit idéal pour les personnes en marge de la société aussi. C'est d'ailleurs une des particularités de notre église, si je peux dire église, pour ceux qui n'aiment pas le terme église de l'Armée du Salut, mais voilà. Mais c'est une de nos particularités. Dans le monde, ces personnes sont rejetées, méprisées, mais l'église locale leur donne une chance de se sentir en famille. Quand j'étais à Genève, avec la même amie avec laquelle je suis parti du coup en vacances, on allait souvent au phare, c'est un endroit où on donnait à manger, il y a des gens qui venaient et on pouvait leur donner à manger. Et une fois, on a croisé quelqu'un qui venait d'Albanie. Ça faisait 7 ans qu'il était là à peu près, il n'avait aucune famille, pas d'amis. Et je veux dire, c'était difficile, ça faisait 7 ans qu'il était là, qu'il errait, j'ai envie de dire, presque dans la ville. Et puis, un jour, on l'avait invité à l'église, il était venu, tout ça. Puis on avait fait un parcours alpha, plus tard, on l'a invité, on a dit, viens au parcours alpha. Ça l'a touché, tout ça, et puis il a commencé à venir à l'église régulièrement. Puis un jour, dernièrement, il y a quelques semaines, il est devenu soldat. Et à chaque fois que je le voyais à la fin du culte, il me disait une chose, il me disait, vous savez, vous êtes ma seule famille. Quand je viens là, c'est ma famille. Et vraiment, ça me touche parce que je me dis, cette personne-là, peut-être pour nous, on a nos familles, on peut se... Si on ne vient pas là, ce n'est pas grave, mais pour certaines personnes, pour lui, c'était très important de venir le dimanche parce que c'était sa famille, c'était le seul endroit où il trouvait des gens avec qui discuter. Donc la communauté a cette mission d'être une famille. Donc, en conclusion, nous avons vu l'importance qu'il y a de vivre en communauté et le sens que cela a pour ses membres. L'église locale est vraiment l'atelier de Dieu grâce auquel il peut réaliser son ouvrage. C'est vraiment, ça je pense que c'est vraiment ça, c'est l'atelier où Dieu peut réaliser son ouvrage. Donc j'aimerais dire à Carla, à Paola, à Laurence aussi, et à chacun d'entre vous, et à moi aussi, qu'on a fait un choix précieux en adhérant à une communauté, et surtout à une famille spirituelle. Voilà.